autour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Bonjour, la poésie est la première forme littéraire attestée dans le monde arabe. Elle apparaît au VIe siècle. Le poète est alors porte-parole de sa tribu. Il en défend l'honneur. La poésie est mémoire, guerrière, lors de joutes où les poètes s'affrontent pour la gloire. Et cette tradition poétique, elle reste vive, elle est devenue politique. Elle se conjugue désormais au féminin pour en parler. Carrefour du Maghreb accueille cette semaine la poétesse marocaine Rim Battal et le dramaturge et écrivain algérien Mohamed Kassimi. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Écrire de la poésie, c'est toujours le sommet de la littérature pour vous, Rim Battal?
Je pense, oui, que c'est là que s'est joué et se joue encore aujourd'hui un vrai travail avec la langue, un vrai corps à corps qui permet à la fois de la polysémie, de produire des images inédites parfois et aussi des sonorités, une musicalité dans la langue qu'on peine à trouver ailleurs dans d'autres genres littéraires.
Vous écrivez une poésie de l'intime, du corps, une poésie où vous êtes souvent l'objet même du poème, dans votre intimité. Ça rend peut-être votre travail particulièrement moderne aujourd'hui?
Je ne sais pas si vraiment là j'invente quelque chose. Il me semble qu'il y a quand même une ascendance de poétesses qui se sont emparées de leur propre vie, de leur propre corps. Je pense par exemple à Amriri Danaitatir, qui est une poétesse du Haut Atlas qui aurait vécu entre 1900 et 1940, qui n'avait pas besoin de savoir lire et écrire pour composer ses poèmes de mémoire et les dire et donc les performer. Et ses poèmes sont résolument politiques et par de son corps pour nous montrer encore aujourd'hui la position de la femme dans la société. Ça n'a pas du tout pris une ride.
Les poétesses palestiniennes dont vous avez rassemblé les travaux, Mohamed Kassimi, comment est-ce que vous les avez rencontrées? Comment est-ce que vous avez choisi les œuvres que vous avez traduites?
Je tiens à préciser que le choix n'est pas le mien, c'est celui d'une amie poétesse qui vit à Ramallah, Nida Younis. Et Nida a essayé aujourd'hui de recueillir l'ensemble des écrits ou poèmes des poétesses palestiniennes vivant aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie ou en exil ou à l'intérieur, comme on appelle les Palestiniens de 48, ceux qui n'ont pas été déportés après la création de l'État d'Israël, et de donner une vision d'ensemble de cette terre. D'où le titre, l'anthologie porte le titre de Palestine en éclat, et le titre vise un peu à dire comment cette terre, comment ce peuple a été, au fil des années, réduit en miettes par la colonisation. Donc l'idée, c'était de rassembler, de réunifier, comme on ramasse les morceaux d'un vase brisé, et de montrer, de faire entendre, par ces temps où l'on ne s'intéresse qu'aux Palestiniens qui meurent, de faire entendre la voix des Palestiniennes qui persistent à vivre malgré tout ce que leur peuple subit depuis 2 ans, ou je dirais même depuis 48.
Tous les événements de ce poème sont réels. J'ai vécu 26 années en Palestine. Je n'ai jamais manifesté. Je n'ai jamais lancé une pierre. Je n'ai jamais rejoint un groupe politique. Je ne me suis jamais réjouie d'un attentat. Je n'ai jamais appelé à prendre parti. Et voici ce qui m'est arrivé. J'ai perdu mon amour, une balle dans la tête. J'ai été sauvée d'une balle dans la tête par un coup de fil. J'ai vu ma chambre exploser alors que j'étais cachée derrière la porte de l'armoire. J'ai été arrêtée 20 fois. J'ai vu 20 fois un char bloquer ma voiture. J'ai marché 10 heures dans les montagnes pour rentrer chez moi et les soldats m'ont obligée à faire demi-tour. J'ai franchi 2500 fois les checkpoints. J'ai été empêchée de passer 500 fois. J'ai respiré une grenade lacrymogène tomber à mes pieds. J'ai vu mes enfants respirer une autre grenade dans la voiture. J'ai changé 3 fois les vitres de la voiture en un mois. J'ai quitté ma maison. J'ai balayé les éclats de verre, des tapis et des coussins à mon retour. J'ai vécu une seule intifada. J'ai traversé 3 guerres, c'est tout. Voilà tout ce que je sais. Maya Aboulhayat.
On est assez loin du corps que peut décrire Rim Battal dans son travail.
La poésie palestinienne a été longtemps dominée par ce baobab extraordinaire qui est Derwish. Et on voulait un peu écarter cet arbre qui cache la forêt des voix féminines palestiniennes pour faire entendre ses voix de femme. Et ce qui est intéressant, on le voit très très bien dans les poèmes de Nida Younis, par exemple, ou de Maya Abul-Hayat, c'est que c'est une poésie qui va renoncer à la poésie des années 70, des slogans, et qui va se réfugier à l'intérieur du corps des femmes. Et toute cette poésie, on le sent, va passer par le truchement du corps de la femme, parce que le problème, c'est que les femmes souffrent d'une double colonisation, c'est-à-dire de la colonisation israélienne et de l'oppression patriarcale, ou je dirais même de la colonisation des pères et des frères.
Ça rejoint votre travail, alors, pour le coup, Rim Bata.
Complètement, ça résonne énormément, parce que justement, ces femmes sont doublement pénalisées, en fait, d'abord par la guerre, parce qu'elles sont, comme l'a dit mon camarade Mohamed Kassemi, sont justement déplacées, se meurent, etc. Et puis, justement, elles subissent, comme partout ailleurs, les femmes subissent les affres du patriarcat, et donc elles sont doublement invisibilisées dans le champ de la poésie. Et je trouve que c'est important aujourd'hui de leur donner la voix, surtout à travers la poésie, parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui de construire des ponts, de travailler et cultiver l'empathie avec ces personnes qui vivent la guerre, avec ce déferlement d'images extrêmement violentes qui rendent compte de manière très claire des atrocités qui sont commises là-bas. Parfois, ça nous éloigne de la sensibilité, du ressenti, de ce que ressentent les personnes, de ce qu'elles traversent dans leur corps même. Et je pense qu'écouter les poétesses dans ce cas peut vraiment être salvateur.
Est-ce que c'est une transgression terrible d'écrire de la poésie quand on est une femme marocaine, une femme palestinienne ?
Alors, moi, je m'en rendais pas du tout compte. Moi, j'écrivais de la poésie. J'étais très heureuse de pouvoir jouer avec les mots à ma manière, de transmettre ce que j'avais envie de transmettre via ce canal-là, parce que c'est ce qui me paraissait le plus pertinent, ce qui me paraissait le plus beau comme lien avec la langue. Mais je me suis rendu compte ensuite qu'il y avait une sorte de rejet de ma poésie, qu'elle était toujours classée soit dans une sorte de sous-catégorie qui était poésie féminine ou poésie féministe, ce que je ne renie absolument pas, mais j'ai envie qu'elle touche le plus grand nombre plutôt que d'aller vraiment vers des remplir des cases ou être une sorte de quota. Et par ailleurs, on me renvoie toujours au fait que ma poésie est provocatrice, ce que je, pour le coup, rejette parce que ce n'est pas du tout mon intention. Elle est perçue comme telle parce que c'est une transgression d'écrire en étant femme, en étant en plus femme racisée en France qui écrit en français.
Vous avez envie d'écrire en arabe ?
Je rêverais d'écrire en arabe. Aujourd'hui, je n'ai pas le même niveau en fosha, en arabe classique, qu'en français, donc je ne me sens pas autorisée d'écrire en arabe. En revanche, j'essaye un peu de me mettre à l'écriture de poèmes en darija, qui est l'arabe marocain.
Je suis l'orpheline, celle sans terre, des feuilles, oui. Sa terre est une terre étrangère, oui, étrangère pour les intimes. Je suis l'orpheline, celle dévorée par l'exil, je porte sur ma peau les cratères d'un univers déchiré par des doigts qui ne sont pas mes doigts. Je suis l'orpheline, celle qui pompe l'eau des figuiers, des noyers, désolée. Tombée du ciel, pauvre orpheline, désolée.
Mohamed Kassemi, c'est très transgressif pour une poétesse palestinienne de raconter l'intimité, la guerre. C'est plus compliqué pour une femme que pour un homme ?
C'est plus compliqué pour une femme que pour un homme, mais elle se heurte aux mêmes limites et aux mêmes tabous dans la société. Je prends le cas, par exemple, de Jadal al-Qassim, qui a écrit un poème sur Dieu qu'elle va surveiller, qui fait les poubelles, qui travaille dans un supermarché. Et à la fin, elle dit: Dieu fait semblant d'être vivant alors qu'il est mort depuis longtemps. Et cette jeune fille qui travaille aujourd'hui à Beirzeit a reçu des dizaines de menaces de mort après la lecture et après l'écriture de ce poème. Je recite Nida Younis qui a écrit un poème qui s'appelle « La salle de bain » où elle décrit la séance d'épilation de ses parties intimes. Et on trouve dans ces temps de guerre qu'une femme qui ose, avec ce que vit le peuple palestinien et ce que vivent les siens, quelque chose de complètement immoral, qu'elle parle de son corps, alors que c'est la même chose. Parler du corps des femmes, de l'intimité des femmes, c'est parler aussi de ce qui se passe autour. La guerre est trop abstraite, la guerre est quelque chose d'irréprésentable au niveau de la poésie, et on ne peut l'aborder que par ces choses les plus intimes et les plus secrètes. Et on ne peut pas faire aussi de poésie sans briser les tabous, comme on le voit dans d'autres poétesses de 48, comme Sheikha Helwi, qui a une poésie radicale, féministe, absolument révoltée de bout en bout.
Ces poétesses, elles écrivent en arabe, vous les avez traduites. Est-ce qu'on y perd quelque chose? Est-ce qu'on y gagne quelque chose avec la langue, Mohamed Kassimi?
On perd toujours quelque chose, surtout que la langue arabe est une langue de la poésie et qu'elle s'autopoétise elle-même. Donc le fait de la faire passer dans cette langue qui est une langue très très cartésienne, très rationnelle, parfois glaciale, je dirais, par rapport à la chaleur que recèlent les poèmes arabes, font qu'on perd quelque chose, c'est vrai. Mais j'ai tenu absolument, contrairement à la tradition de certains traducteurs qui essayent d'enjoliver les poèmes, qui essayent de bien les habiller pour les accueillir dans la langue française, j'ai voulu que ces poèmes arrivent les pieds nus, parfois décharnés, à poil, dans la langue française, sans pour autant les habiller avec des artifices. Quelqu'un qui est en basket, je ne vais pas lui mettre des chéroutis aux pieds pour qu'il soit plus présentable pour les lecteurs français.
Et à l'Institut du Monde Arabe, Mohamed Kassimi, vous avez organisé un événement autour de cette anthologie « Palestine en éclats » qui est sortie chez Almanach.
Oui, on a fait une grande soirée avec en bilingue, parce qu'il fallait faire entendre ces textes en bilingue. Et surtout, on a fait la clôture de cette soirée par ce poème qui marque le début de l'anthologie publiée chez Almanach, « Palestine en éclats », par le texte écrit par une jeune palestinienne, Hiba Abou Nada, au 20 octobre après le déclenchement de l'attaque contre Gaza. Je dis bien « attaque » parce que le grand éditorialiste israélien Gideon Levy a publié un éditorial où il dit « Ceux qui parlent de guerre cautionnent le génocide. Il faut parler d'une attaque barbare contre un peuple démuni et sans armes. » C'est pour ça que je parle d'attaque barbare et non pas de guerre. Une guerre suppose deux armées organisées l'une face à l'autre, ce qui n'est pas du tout le cas. Et j'ai ouvert cette anthologie avec ce poème de Hiba Abou Nada qui a écrit sur sa page Facebook, minute par minute, jusqu'à l'instant où un missile est tombé sur sa maison et qui a réduit en miettes la maison et elle et sa famille. Donc c'était un acte aussi politique pour dire, pour ancrer la poésie dans la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Que signifie être poète en temps de guerre? Cela signifie multiplier les excuses aux arbres brûlés, aux oiseaux sans nid, au visage de chaque mère endeuillée ou tuée. Cela signifie avoir honte de ton sourire, de ta chaleur, de tes vêtements propres, de tes heures d'ennui, de tes bâillements, de ta tasse de café, de ton sommeil paisible, de tes proches encore en vie, de ta satiété, de l'eau disponible, de l'eau propre, de pouvoir prendre une douche et du hasard qui fait que tu es encore en vie. Mon Dieu, je ne veux pas être poète en temps de guerre. Hind Jouda.
Quand on lit les poèmes qui sont réunis dans cette anthologie, quand on voit le travail que vous faites, vous, Rim Batal, on voit qu'il y a énormément le souci de transmettre, de faire un lien entre les différentes poètes, poétesses, dans votre cas. Vous, vous avez participé, Rim Batal, à un ouvrage collectif qui s'appelle « Lettres de jeunes poétesses », qui est un petit peu le « Lettre à un jeune poète » de Rilke. Comment est-ce qu'on a assez confiance pour devenir poète, pour se dire poétesse ?
Alors, on n'a jamais assez confiance, mais il faut simplement se jeter dans le bain parce que je pense de manière très ancrée que toute personne en est capable, que toute parole est légitime à être transmise en poésie à partir du moment où on a le souci de la langue. Et à ce titre-là, je donne aussi des ateliers d'écriture pour transmettre à des jeunes en milieu scolaire ou aussi dans des médiathèques le goût de la poésie. Je leur lis des textes, je leur donne des consignes pour pouvoir écrire et trouver leur propre voix, leur propre langue. Et puis, la transmission se passe aussi parfois dans des lieux interlopes, comme le Bordel de la Poésie, qui est un cabaret littéraire où on organise des soirées costumées. Et donc, l'intérêt avec le costume et le cabaret, c'est que ça attire des personnes qui sont souvent éloignées de la poésie et qui viennent pour les paillettes et les plumes, et en fait, qui se retrouvent face à des poètes et poétesses qui leur font la lecture en tête à tête. Et dans ce cadre-là, les personnes se permettent de poser des questions, de dire « je n'ai pas compris ce poème, qu'est-ce que tu as voulu dire par ce vers-là en particulier ?» Et nous, ça nous permet donc d'expliciter parfois un texte et les personnes repartent en nous demandant des recommandations de lecture pour pouvoir poursuivre justement cette découverte-là. Je ne veux plus voir ton rocher, dit son ongle qui me désigne, me déleste de ma chair, me destitue. Je me suis rassemblée, poil par poil, petite parcelle de terre et de marais, j'ai décidé de mon toit. S'il fallait vivre dans une prison, je décorerais cette prison de poires, d'oiseaux en cage et de miroirs sans teint. Je danserais ma prison, je la posséderais autant qu'elle me possède, peindrais des étoiles à son ciel sans fin. Je me regarderai dans les yeux.
La transmission, elle a l'air de fonctionner avec les poétesses palestiniennes. On a parlé de 48 jusqu'à aujourd'hui. Il y a des poétesses extrêmement jeunes qui sont dans cette anthologie. Comment est-ce qu'on continue à faire vivre le verbe, à faire vivre le poème dans un territoire en guerre?
Surtout, c'est la transmission. Pour les biographies, j'ai demandé à chaque poétesse de me retracer l'histoire de sa famille depuis 1948, pour que les lecteurs aient une sorte de généalogie des exils palestiniens et de voir la traçabilité, je dirais, de la déportation ou de l'exil forcé de ce peuple dont la moitié, aujourd'hui, il y a 6 millions de Palestiniens qui vivent à la fois à l'intérieur d'Israël, en Cisjordanie et à Gaza, et 6 millions qui vivent en Europe, au Chili, aux États-Unis. Donc c'est cette idée-là de mémoire, de transmission, qu'on a essayé dans cette anthologie, en même temps de rajouter pour chaque partie une explication, une contextualisation historique, parce que la Palestine est un mot très violent, très fort, mais qui parfois est très abstrait pour les gens. Donc de dire quelle est la fragmentation du territoire, comment vivent les gens de Gaza, que ceux de Jérusalem n'ont pas le même statut juridique que ceux de Cisjordanie, que ceux de Cisjordanie n'ont pas le même statut juridique que ceux de 48, et qu'à la fin de l'anthologie, on puisse entendre non seulement à la poésie des femmes, non seulement à la voix des femmes, mais de découvrir la réalité de la fragmentation du territoire palestinien et des territoires palestiniens par la colonisation israélienne.
Merci beaucoup Mohamed Kassimi, merci beaucoup Rim Battal. Merci. Je rappelle le titre de l'anthologie de la jeune poésie féminine palestinienne que vous avez dirigée, Mohamed Kassimi, c'est Palestine en éclat. Le recueil de Nida Younis que vous avez publié, Je ne connais pas la poésie, et les deux sont aux éditions Almanach. Et vous Rim Battal, votre premier roman qui a fait sensation, Je me regarderai dans les yeux, édition Bayard. Et puis votre dernier recueil de poésie paru, c'est X et Excès, c'est publié au Castor Astral.
ها هنا الآن بين شظايا الشيء ولا شيء نحيا
Carrefour du Maghreb à la réalisation Françoise Grelot, à bientôt.
نلعب الشطرنج احيانا ولا نابوا بالاقدار خلف الباب ما زلنا هنا نبني من الانقاض ابراج حمام قمريه